L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique, merci d'être là comme chaque week-end BFM Business, 16h-18h. Le Portugal, ce sera notre World Tour tout à l'heure. Avec Aurore Géraud, à quoi ressemble l'écosystème tech et start-up au Portugal? Est-ce que ça repart là-bas? On verra ça tout à l'heure. Et puis, Éric Le Bourlou sera à mes côtés juste après pour notre rendez-vous depuis la rédaction de Zeronet.com pour jeter un œil sur les gros titres d'actualité high-tech de cette semaine. Et il y en a eu quand même pas mal avec cette affaire ou le Wikileaks. On y reviendra, bien évidemment. Mais dans l'immédiat, c'est notre passion selon Sanet avec Lila Megrawa et nos invités. On va parler de l'entreprise libérée grâce au numérique. Ça fait presque penser à un titre d'une chanson de Walt Disney. Libéré, délivré. Non, mais ça n'a rien à voir.
Mais oui.
L'entreprise libérée, simplement.
On va parler de tout ça, d'entreprise libérée et même peut-être de bonheur au travail, avec deux messieurs qui dirigent une société, Octo Technologies, qui, figurez-vous, a figuré deux fois, deux ou trois fois, il me semble, je ne sais plus, le top du classement Great Places to Work.
C'est plutôt bon signe quand on a ça en général.
Bah, c'est dire s'ils s'y connaissent en salariés, collaborateurs contents. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, l'entreprise libérée, vous allez la semaine prochaine, les 2 et 3 juillet prochains, au Carrousel du Louvre, lancer le grand Raoult, la grande conférence autour de la transformation digitale d'Octo Technologies. Musi. François Isquin, vous êtes président du directoire d'Octo Technologies. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette nouvelle édition de l'USI?
Bien sûr, donc 8e édition, on a lancé ça en 2008 et aujourd'hui nous sommes au Carrousel du Louvre. Le format est toujours le même, c'est-à-dire 2 jours de conférences qui s'organise comme ça, donc avec des keynotes, donc ce qu'on appelle des sessions plénières, et puis des sessions pendant lesquelles les participants peuvent se répartir d'une salle ou l'autre. Donc trois types de sessions en parallèle, voilà, pendant 2 jours, et on va parler de transformation digitale.
Alors, quelles grandes thématiques vont par exemple être abordées?
Alors, toutes les thématiques à la mode, évidemment. On va parler de big data, on va parler de transformation digitale des grandes entreprises, parce que c'est le sujet qu'on essaye d'adresser. L'USI est une conférence pour les grandes entreprises qui se transforment plus que pour les start-up. Et puis on va parler donc de management, évidemment. On va parler de réseaux sociaux, on va parler de tous les sujets du moment. Et d'accord, aussi de sujets prospectifs.
Donc les 2 et 3 juillet prochains au Carrousel, voilà, du Louvre.
C'est plus la peine d'essayer de s'inscrire, c'est complet.
Ah mince, c'est comme ça. Mais de toute façon,
ça prouve en tout cas qu'on n'en parle pas pour faire de la pub.
Oui, voilà, exactement. 8e édition, on n'a pas attendu les dernières années pour faire des conférences sur ce sujet-là. On aborde ce sujet-là depuis 8 ans et c'est maintenant un beau succès.
Et on peut dire qu'il y a des vidéos sur une chaîne YouTube et qu'elles seront disponibles très rapidement après l'événement.
Exactement, pour ceux qui... Pour ceux qui peuvent pas se rendre à l'USI, vous pouvez vous connecter sur notre chaîne YouTube et vous verrez toutes les vidéos des années précédentes et de cette année.
Ludovic Cinquin, vous êtes directeur général d'Octo Technologies. Vous vous exprimerez d'ailleurs au cours des 2 jours sur un sujet plutôt intrigant, de l'entreprise digitale à l'entreprise libérée. Alors, l'entreprise libérée, tout d'abord, c'est quoi?
Alors, c'est un terme qu'on emprunte, enfin qui commence à avoir son petit succès maintenant et qui vient d'un livre qui a été publié il y a quelques années qui s'appelle Liberté et compagnie, donc par une personne qui était l'an dernier à l'USI, qui s'appelle Isaac Gates. Et donc c'est un terme de plus en plus courant pour décrire des entreprises où les employés ont la liberté d'agir selon leur bon jugement pour répondre au mieux aux objectifs de l'entreprise. Et donc ce sont des entreprises où finalement on laisse la bride sur le cou des employés pour qu'ils gèrent les situations concrètes auxquelles ils sont confrontés.
Donc finalement, ça veut dire le salarié va être libéré de contraintes horaires, hiérarchiques.
Certaines entreprises qui sont allées très loin parce qu'elles ont supprimé les managers, donc ça arrive, les managers intermédiaires. Il y a effectivement des entreprises, enfin une des manifestations souvent de ce type de libération d'entreprise, c'est la suppression des pointeuses, en effet. Et donc ça va très loin. Il y a des entreprises où les plans de rémunération sont construits en commun commun avec les salariés. Donc c'est il y a plusieurs façons de faire en sorte que les entreprises se libèrent. Et on a en France quelques cas qui sont assez bien documentés parce qu'il y a pas mal de bouquins qui ont été publiés sur ce sujet.
Est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises françaises qui s'y ont mises s'y sont mises?
Alors, il y en a trois qui reviennent beaucoup dans la littérature, qui sont Favi, Poult, un biscuitier, et Chronoflex, qui fait de la maintenance de tuyaux. Donc ça fait partie des entreprises qui reviennent assez souvent sur ces sujets-là. Mais j'ai envie de dire, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y en a beaucoup d'autres, des dizaines, que pour le coup dont j'ai entendu parler, et peut-être probablement plus, mais on n'en entend pas parler.
Et j'imagine qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est encore plus courant ou pas?
Plus courant, je sais pas. Il y a aussi quelques cas très documentés. Et c'est vrai que les géants du web ont quand même beaucoup repris ces principes-là. Donc des entreprises comme Google, c'est des entreprises qui sont beaucoup dans cette lignée-là également. LinkedIn, Facebook peuvent être considérées comme des entreprises.
Oui, l'entreprise modèle un peu sur ce sujet aux États-Unis, c'est Zappos.
Oui, qui est à Las Vegas.
Qui a été racheté par Amazon. Mais si vous pouvez vous procurer le livre de Tony Hsieh, qui est le fondateur de Zappos, qui s'appelle l'entreprise du bonheur, je crois en français, et qui décrit cette entreprise libérée qu'est Zappos.
Voilà, et ils vendent des chaussures, je crois, non?
Ils ont été les premiers à vendre des chaussures sur Internet.
C'est un peu le Sarenza, mais puissance à l'américaine, en fait. Et ils ont ce concept-là.
Ils ont ce concept...
pas de manager là-bas.
Il y a évidemment, comme dans tout modèle, finalement, il y a des modèles de maturité différents d'une société sur l'autre, donc il y a des patterns qu'ils peuvent appliquer. Ils n'appliquent pas forcément tous les patterns qu'on trouve dans les livres, mais bon nombre de ces patterns sont appliqués chez les Zappos.
Vous faites d'ailleurs un rapprochement, Ludovic Cinquin, entre l'entreprise digitale et l'entreprise libérée.
Alors le lien que je fais, c'est donc on accompagne beaucoup d'entreprises qui essayent de devenir des entreprises digitales, et on se rend compte qu'elles commencent toutes par des coûts digitaux. Donc les coûts digitaux, ça va être organiser un hackathon, sortir une application sur un iPad, ça va être lancer un POC, donc un proof of concept autour du big data, par exemple. Puis au bout d'un moment, en fait, toutes les organisations sont confrontées à l'enjeu de construire une culture digitale. Et construire la culture digitale, c'est finalement prendre acte du fait que la technologie, ça change fondamentalement les façons de travailler dans les entreprises et les relations au management. Et donc le sujet de la session que je vais donner à l'USI, c'est justement de dire que probablement les entreprises qui ont vraiment envie de devenir digitales ont probablement beaucoup de choses à aller chercher chez les entreprises qui se sont libérées et qui sont par exemple pas du tout digitales, c'est-à-dire qu'un biscuitier comme Poult, son métier, c'est un métier très industriel. Ces entreprises-là montrent la voie sur comment une entreprise peut changer sa culture pour aller vers des modes de fonctionnement qui sont plus ancrés dans notre 21e siècle, on peut dire.
Et est-ce que des outils numériques pourraient aider à cette émergence-là, cette libération-là de l'entreprise? On pense assez souvent au contraire, d'ailleurs, numérique, aliénation, mais...
Alors oui, tout à fait, et en même temps, le fait de commencer par l'outil, c'est souvent une erreur. L'exemple classique, c'est les réseaux sociaux d'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont installé un réseau social en se disant « avec ça, je vais devenir une entreprise digitale ». Si la culture ne suit pas, vous avez juste rajouté un machin de plus dans votre organisation et ça ne vous sert à rien et vous n'en faites rien. Donc la culture et l'outil sont quand même intimement liés. Et
pour peu que seulement la moitié de l'entreprise ait accès aux outils digitaux, vous avez augmenté la taille de la fracture.
Intéressant tout ça. Alors juste une petite question, on a parlé des États-Unis, de la France, est-ce qu'il y a d'autres cas européens ou est-ce qu'il y a des pays qui sont en avance par rapport à la France?
Oui. Il y a les pays nordiques en général ont abordé ce sujet de façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus en avance par rapport à la France. Alors aux Pays-Bas, il y a plein d'exemples. En Finlande, Norvège. Après, comme on connaît pas la langue, ça diffuse un peu moins. Mais non, ça, oui, les pays nordiques sont en avance sur ces sujets-là. La place de l'humain dans la société est, je pense, beaucoup mieux appréhendée dans ces pays-là qu'en France.
Et alors, chez Octo, vous avez mis en place cette idée d'entreprise libérée? La place alors, d'abord aux collaborateurs?
J'ai envie de vous répondre non en étant un peu provocant, parce qu'on ne s'est pas réveillé un matin en disant « il faut qu'on soit une entreprise libérée ». Donc on a créé Octo en 98 et puis on était adepte de ces principes, donc on a mis en place, mais sans vraiment les mettre en place, des choses assez naturelles où on a évité de mettre des chapes de plomb sur les équipes et de définir des process comme on trouve dans des grands groupes. Donc vous voyez, ma réponse est un petit peu mitigée entre du oui et du non. Et comme vous le disiez tout à l'heure, si on en croit le classement Great Place to Work et le fruit finalement d'enquêtes faites à l'intérieur de l'entreprise, on a l'impression que ça marche plutôt bien, en tout cas que le ressenti est plutôt très favorable.
Est-ce que vous diriez que c'est compatible avec l'esprit grand groupe, l'entreprise, cette notion d'entreprise libérée, Ludovic?
Alors, j'ai essayé de reprendre une citation que j'ai lue il y a pas très longtemps, que j'ai beaucoup aimée, qui est de Henry Ford, donc pour le coup qui est pas associé à la libération des entreprises, et qui disait, j'essaye de la traduire à la volée, que vous pensiez que vous en êtes capable ou que vous pensiez que vous en êtes pas capable, vous aurez raison. Donc, en fait, je pense qu'il y a plein de choses qui sont possibles dans les grands groupes, mais que il y a une autocensure très très forte qui fait que peut-être qu'ils essayent pas assez d'aller dans cette direction, alors qu'ils pourraient quand même faire pas mal de choses dans ce sens-là.
Finalement, ça demanderait plus qu'une transformation numérique, une transformation culturelle.
Oui, évidemment. Et beaucoup d'abandon, parce que quelque part, c'est redonner du pouvoir aux employés, qui aujourd'hui sont tous des gens dans pas mal d'entreprises bien formés et très compétents.
Eh bien, merci à tous les deux. Toutes ces précisions, merci. Donc, on a bien compris que pour Luizy c'est terminé, c'est plein. Hein,
ça sera l'année prochaine.
L'année prochaine, bien évidemment, on pourra suivre ça sur la page YouTube donc de ce rendez-vous. Hein.
François Isquin, merci. Je rappelle, merci. Vous êtes président du directoire d'Octo Technologies et Ludovic Cinquin, vous êtes directeur général d'Octo Technologies également.
Merci beaucoup. Et on revient dans un instant la suite de cet atelier sur BFM Business. On va enchaîner, entre autres, avec notre World Tour, un spécial Portugal dans quelques instants. À tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
À quoi ressemble l'écosystème tech et start-up au Portugal? On en parle dans quelques instants avec notre World Tour, en compagnie d'Aurore Giraud et notre invité. Mais dans l'immédiat, c'est notre dossier de l'atelier. On va s'intéresser à l'écosystème fintech français. Et c'est avec vous, Lila Megraoua.
Oui, François. Alors, cette semaine, on va s'intéresser à la scène fintech française. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Alain Clos. Bonjour.
Bonjour.
Alain Clos, vous êtes président de l'association France FinTech. Vous présidez également le conseil de The Assets. Alors dites-nous un peu, vous venez de lancer cette association France FinTech. Pourquoi ?
À l'origine, c'est une rencontre entre les représentants des principales entreprises de FinTech de la place, qui se connaissent bien d'ailleurs, qui forment une communauté au sens de l'Internet, et qui ont décidé de se fédérer, de créer une association leur permettant de porter leur parole et d'exister comme un groupe. Et ils sont venus tout simplement me chercher, d'ailleurs ma surprise à certains égards, puisque je viens plutôt du côté de la banque, même si je suis dans le digital depuis plusieurs années, pour me proposer d'en prendre la présidence.
Et cette association aurait vocation à fédérer, à pousser l'essor des startups fintech, de mettre la lumière sur tous ces cas d'or de la scène fintech que sont Litchi, Lendix, The Assets également.
Ils sont tous là, en effet. Alors, la première mission, le premier objectif, c'est de fédérer de manière un peu plus organisée cette communauté. C'est le partage d'expériences, c'est les rencontres qui sont absolument essentielles dans ce milieu. C'est facteur de qualité relationnelle, mais aussi d'innovation et de coopération. Deuxième motif, c'est de promouvoir la fintech française, lui donner une plus grande visibilité en France et à l'international. Et de ce point de vue, faire un peu ce qu'ont fait nos prédécesseurs anglo-saxons, qu'il faut bien le dire, se sont structurés un petit peu avant nous, notamment aux États-Unis et en Angleterre. Et puis la troisième, c'est de parler de manière coordonnée aux autres instances pertinentes que sont les pouvoirs publics, les régulateurs, les banques, les compagnies d'assurance et le monde associatif de la finance et du digital.
Alors justement, vous l'évoquiez, quand on voit la structuration de l'écosystème, par exemple britannique, on peut citer l'initiative Livel 39, l'accélérateur de Barclay. Est-ce que c'est pas déjà un peu tard? Ou est-ce qu'on pourrait rattraper ce retard du côté français?
Non, il ne me semble pas que ça soit trop tard. La fintech française est assez innovante. Elle couvre aujourd'hui pratiquement tous les secteurs des métiers financiers, sans exception à ma connaissance. Elle est représentative, elle est assez importante en volume et en compétences. Elle est déjà présente à l'international. C'est plus une question de formalisation de la parole et d'organisation que d'existence proprement dit. La fintech française aujourd'hui tient sa place. J'ai envie de dire d'ailleurs que les Français habituellement, on leur reproche beaucoup de choses, mais en général on les gratifie d'une bonne culture financière et d'une bonne culture mathématique, informatique et digitale. Forcément le mélange des deux, ça donne une certaine légitimité. Et non, je pense que c'est plutôt formaliser l'action, l'accélérer plutôt que partir de zéro.
Quels sont vos chantiers d'avenir, là, les prochaines étapes pour France FinTech?
Outre le fait de fédérer la communauté et de lui donner plus d'opportunités de se voir et de rencontrer le monde, donc on fera pas mal d'événements, on fera des publications, on fera des choses comme ça. Mais on a des chantiers auxquels on veut contribuer, c'est pas nous seuls qui les porterons. Hein. Si on doit simplifier, la FinTech française aujourd'hui, elle a des atouts assez nombreux, j'ai rapidement mentionné tout à l'heure. Elle a aussi des contraintes un petit peu supérieures à certains égards à celles des autres fintech, en particulier des pays anglo-saxons. Je ne vais pas tous les inventorier, mais je vais en mentionner quelques-unes principales. La première, c'est le financement. Pour faire très simple, c'est assez facile de trouver la première mise de fonds pour lancer, qu'on appelle le love money. C'est pas très difficile de trouver le financement au-delà du point mort, le capital investissement. C'est beaucoup plus difficile entre les deux. C'est ce qu'on appelle l'early stage, le seed, l'amorçage en bon français. Voilà, là, il y a moins de capacité que chez les anglo-saxons, notamment à Londres. Les fonds sont moins nombreux, les poches spécialisées sont moins nombreuses. Donc on veut contribuer à voilà accélérer en rendant ça visible, plus facile. On veut dialoguer. Voilà. Deuxième chantier, c'est l'ensemble des contraintes qui pèsent sur les entreprises de technologie en général. Et là, il y a des grands chantiers auxquels tout le monde contribue, mais il y en a un qui est absolument majeur, qui est la fiscalité. Pour résumer, on a la même fiscalité lorsqu'on prend le risque de monter une start-up et de se retrouver avec 7 ou 8 chances sur 10 de ne pas y arriver, comme il est d'usage en ce milieu. On se retrouve dans la même situation de fiscalité à l'arrivée que lorsqu'on achète des emprunts d'État. C'est pas normal que cette fiscalité soit la même, d'ailleurs qu'elle soit aussi lourde. Et puis il y a toutes sortes de sujets réglementaires aussi, même si beaucoup de choses avancent, on l'a vu sur le financement participatif, ça bouge. Mais il faut accompagner, il faut être responsable et en même temps faire bouger les choses. Donc voilà des chantiers sur lesquels on veut apporter notre pierre à l'édifice, dans un mouvement qui a commencé. Et de ce point de vue, on est déjà très mobilisé.
Eh ben, on va suivre tout ça. Alain Clos, merci. Je rappelle, vous êtes président de l'association France FinTech et vous présidez également le conseil de The Assets. Merci.
Lila, merci. Place donc à notre World Tour et cette semaine, direction, oh, pas si loin, le Portugal avec vous, Aurore Géraud est notre invité.
Oui, alors du coup, je suis aujourd'hui avec Sandra Lucas Ribeiro, qui est Project Director chez Faber Noël Lisbonne. Sandra, bonjour.
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 Petit tour au Portugal. Pour quelle raison Faber Noël a décidé de s'exporter dans... Quels sont les attraits du pays?
Bon, ben, je dirais peut-être que Faber Noël s'est senti attiré par l'esprit aventurier des Portugais. Je rigole un peu, mais c'est un petit peu vrai. Les Portugais sont par nature assez aventuriers. C'est un peu culturel. Nous pouvons remonter à l'aventure maritime et découverte du monde. C'est un petit peu ça, en fait. Cette non-peur d'aller tout droit sans savoir ce que l'on trouvera au bout du chemin, de faire des zigzags, de s'adapter à l'environnement, de s'adapter aux gens. Enfin, nous sommes aussi partis émigrer vers les quatre coins du monde. Au fait, un entrepreneur, c'est en grande partie un aventurier avec une énorme capacité de s'adapter, mais qui ne se conforme pas, qui cherche toujours à aller un peu plus loin. Cet esprit aventurier, c'est très présent dans l'ADN du pays, ce qui explique pourquoi l'écosystème de start-up se développe aussi vite, par exemple. Et pour nous, Faber Novel, c'est effectivement très important, puisque notre mission est d'innover et aussi de rapprocher les grands groupes, des petites start-up, pour que les uns apprennent à être plus agiles et les autres plus matures.
Et du coup,
c'est une bonne raison.
Oui, tout à fait. Et du coup, le Portugal sort d'un plan d'aide européen, donc il y a un petit peu de croissance, mais surtout il y a beaucoup de chômage chez les jeunes. Est-ce que pour vous c'est un moment décisif pour l'entrepreneuriat ?
C'est un moment décisif. On peut dire que il y a plusieurs histoires qui se croisent un petit peu, parce que on peut dire que ce qu'il y a ici au Portugal, c'est une histoire d'un écosystème de Lisbonne en particulier, assez différent des autres, surtout parce que l'écosystème de start-up gagne vie dans le secteur public, dans les universités, un peu poussé par la mairie de Lisbonne, et un peu en réponse à cette crise de chômage chez les jeunes. Et ici, l'esprit aventurier revient avec le désir de créer son propre business, son propre emploi, au lieu d'attendre les bras croisés qu'une opportunité apparaisse.
Et pas seulement, j'allais dire, au Portugal, puisqu'on voit qu'il y a nombre d'entrepreneurs qui s'exportent, notamment pas mal en Irlande, j'ai vu, et puis Portugal Venture, qui a posé ses valises à Berlin. Qu'est-ce que ça implique pour le secteur, cette fuite des talents ? Est-ce que c'est une volonté d'internationalisation ou c'est vraiment une fuite ?
Je ne vois pas trop comme une fuite de nouveaux talents. Enfin, c'est aussi vrai que les entrepreneurs portugais partent en Irlande, en Angleterre ou ailleurs, comme les entrepreneurs français partent à Silicon Valley. C'est un petit peu la même chose. Je crois que ce qui motive un petit peu cette recherche, c'est la maturité, parfois un peu plus d'expertise et parfois aussi un peu plus d'investissement. Moi, je vois aussi, par exemple, un échange, puisque nous assistons en ce moment à beaucoup de startups européennes qui s'installent au Portugal et même des entrepreneurs à titre individuel qui décident de tenter leur chance dans cet écosystème. Donc c'est une tendance qui est très valable et qui fonctionne un petit peu dans les deux sens, parce que je crois qu'ils recherchent surtout au Portugal un petit peu notre capacité d'ingénieur qui est assez forte quand même.
Et donc pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les tendances qu'on remarque en matière entrepreneuriale ? Je crois que vous m'aviez parlé un petit peu de tout ce qui est tourisme.
Oui, exactement. Par exemple, nous pouvons voir que enfin l'année dernière, nous avons pratiquement 100 nouvelles entreprises par jour qui ont été créées, ce qui est quand même énorme. Et cette année, nous avons une croissance de 11% face à l'année dernière. Et c'est surtout des projets dans le tourisme qui sont enregistrés un grand taux de croissance. Le tourisme grandit vraiment assez vite, ce qui oblige un peu à bouger le pays. Et toutes ces nouvelles entreprises sont très sur le tourisme, sur l'immobilier aussi. Il y a beaucoup d'investissements étrangers au Portugal au niveau de l'immobilier. Et il y a beaucoup de start-up qui se spécialisent sur ces matières-là, et qui sont cette tendance, au fond, très intéressante aussi.
Vous m'avez parlé notamment d'une start-up qui est au niveau immobilier uniquement sur Facebook, c'est ça ?
Exactement, Home Lovers. Home Lovers, c'est une start-up qui a commencé par Facebook, elle est même présentée par Facebook comme un case. Basiquement, c'est un concept complètement différent, de jolies maisons, des personnes qui aiment vivre à la maison. Et puis, ils sélectionnent et toutes les maisons sont présentées directement sur Facebook, et c'est très intéressant comme case, parce que effectivement c'est tout un business qui s'est développé sur une nouvelle plateforme.
Bon, ben, je vous remercie, Sandra Lucas Ribeiro, project directeur chez Faber Novel Lisbonne.
Merci beaucoup.
Merci,
pour ce petit détour du côté de ce beau pays qu'est le Portugal. On revient dans un instant, la suite de l'atelier, et ce sera un petit détour du côté de la rédaction de Zéronet.com avec Eric Le Bourlou, comme chaque samedi. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Et c'est l'atelier numérique sur BFM Business. Le crash test d'Antoine arrive. On va le retrouver dans un instant pour conclure cette émission. Mais auparavant, direction la rédaction de 01net.com avec, comme chaque semaine, il nous fait l'amitié d'être là. C'est Eric Le Bourlou, le rédacteur en chef du Pôle Actu. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors, Eric, l'actualité de cette semaine. On va parler d'Apple Music et de Google Music. On va parler aussi de Windows 10, de cette fameuse loi sur le renseignement qui se profile, voire même plus que ça, puisqu'elle est en passe d'être adoptée définitivement. On va commencer par la NSA, parce que c'est quand même l'un des gros titres d'actualité qui a cartonné cette semaine sur 01net.com, parce que c'est un sujet qui nous intéresse et qui nous touche. Voilà, la NSA donc a écouté les présidents, trois présidents français pendant des années.
Exactement,
Incroyable.
Ouais. Alors, on l'a appris effectivement dans les colonnes de Libération, mais aussi grâce à WikiLeaks, hein, puisque c'est WikiLeaks qui publie des documents confidentiels, secret défense américains, et qui donc nous montre que effectivement il y a une surveillance assez importante de trois présidents français, donc Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, et sans doute. Ils ont commencé par publier quelques documents. Ouais. Julian Assange, j'ai dit qu'il en avait sous le coude.
Alors, et des choses beaucoup plus importantes.
Voilà.
Qui
font beaucoup plus de bruit. Alors, effectivement, pour l'instant, les documents qu'on a vus, c'est pas.
Je pense qu'il doit avoir chaud aux fesses, lui, quand même. Il doit faire attention où il va.
C'est vrai. c'est vrai. Bon, en même temps, là, c'est vrai qu'il est un petit peu bloqué. Ouais. On sait pas trop. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est. On savait clairement que la NSA depuis des années surveillait un petit peu tout le monde. On le sait depuis les révélations d'Edward Snowden en 2013. On savait déjà que la NSA avait espionné le portable personnel d'Angela Merkel en Allemagne. Et voilà, maintenant on sait que la NSA s'intéresse aussi de près à la France et aux différents présidents français, puisque dans ces documents on voit par exemple qu'ils ont des numéros de portable de hauts dignitaires français, y compris François Hollande pour le coup, et que ces numéros de portable ont été évidemment censurés par WikiLeaks avant d'être publiés, parce que sinon je vous raconte pas le pauvre François Hollande.
Il a changé de numéro de téléphone.
Oui, très vite. Ils avaient accès à tous ces
téléphones. Mais la question qu'on peut se poser quand même, Eric, c'est ces gens-là qui nous gouvernent, et même enfin tous ces hauts fonctionnaires, ont un téléphone comme nous, c'est-à-dire un iPhone, un Android, et passent des coups de fil comme ça. Il n'y a pas de système sécurisé.
Ils ont des systèmes sécurisés, mais alors le problème, c'est est-ce qu'ils les utilisent au quotidien ? Effectivement, François Hollande, comme ses prédécesseurs, ont accès à des téléphones sécurisés qui leur permettent de passer des coups de fil de façon chiffrée avec un algorithme qui n'est connu que des ingénieurs français, donc qui a priori ne peut pas être
déchiffré par la NSA ou quiconque d'autre.
Voilà. En théorie, parce que la NSA a des pouvoirs de surveillance qui sont énormes, donc s'ils ont envie éventuellement de déchiffrer l'algorithme Made in France, on peut imaginer qu'il pourrait techniquement le faire. Mais effectivement, François Hollande a un téléphone qui s'appelle le Théorème, qui lui permet de passer des coups de fil sécurisés.
De la marque Thales,
tout à fait.
Un téléphone à clapet. C'est un téléphone vintage des années 90, on va dire.
C'est pas très très beau, effectivement. Voilà. C'est sûr qu'on va pas aller Facebooker, tweeter, balancer des photos sur Instagram avec ce téléphone-là.
Est-ce que ces personnes qui nous gouvernent s'en servent de ce téléphone-là?
Voilà,
un autre téléphone.
Et forcément, parce que évidemment, on ne peut pas. Il est très difficile de suivre l'actualité, d'avoir les usages qu'on a aujourd'hui avec un smartphone, avec ce genre d'appareil. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément les téléphones qu'ils utilisent au quotidien. Mais bon, vu les documents que pour l'instant WikiLeaks a sortis, ce n'était pas non plus des informations extrêmement confidentielles. On va voir, peut-être qu'ils ont autre chose sur le coude, mais d'après ces écoutes, c'était des informations intéressantes, mais peut-être que François Hollande quand même, quand il s'agit de défense nationale, quand il s'agit de grands problèmes, utilise son téléphone Théorème.
Son téléphone à clapet.
Voilà. Mais c'est vrai que malheureusement, ils n'utilisent pas que ça, et on sait très bien qu'ils utilisent aussi des téléphones beaucoup plus normaux et qui sont soumis à des écoutes éventuelles.
La réaction du gouvernement, d'ailleurs, a été assez molle concernant ces annonces.
Oui, parce que...
Alors évidemment, on a tapé du poing sur la table en disant c'est inadmissible.
Oui, on a appelé Barack Obama et tout ça, on a fait venir l'ambassadeur.
Ouais, mais on a l'impression que c'est plus de la façade tout ça.
Tout à fait, puisqu'on sait, évidemment, toutes les grandes puissances, y compris amis, s'espionnent, s'écoutent, font du renseignement, y compris la France, évidemment, et c'est vrai qu'on savait déjà, ça s'est revenu sur le tapis tapis, mais on savait déjà que à l'ambassade des États-Unis, qui se trouve à quelques encablures de l'Élysée, place de la Concorde, il y aura une station d'écoute. Et voilà, et ça on le sait depuis longtemps, le gouvernement le sait, mais bon, on ne peut pas non plus. Il y a des choses qu'on ne peut pas.
Est-ce que nous on écoute les propos de Barack Obama?
À mon avis, c'est plus difficile.
C'est plus compliqué
parce que évidemment, les États-Unis et la technologie et les moyens qu'ont les États-Unis pour sécuriser leur communication sont plus importants que les nôtres. Ceci dit, il y a eu.
Il paraît que Barack Obama a une borne à lui en fait à chaque fois qu'il se balade pour passer un coup de fil.
Ouais, il aurait effectivement une station de base qui lui permettrait en fait quand il passe un coup de fil.
Quand il se connecte, en fait, il se connecte
à sa propre station de base.
Ça, c'est la classe quand même.
C'est la grande classe. Et donc, la station de base, elle renvoie au satellite. Et donc, du coup, il n'y a pas de.
Personne ne peut intercepter.
Il n'y a pas de possibilité d'attaque man in the middle entre la station de base et le téléphone. Mais on peut dire quand même que les États-Unis aussi ont été piratés, notamment par la Chine. Et on voit que.
Personne
n'est à l'abri de cet espionnage généralisé.
Autre actualité, toujours liée, bien évidemment, on se demande d'ailleurs si ces annonces ne sont pas corrélées, c'est cette fameuse loi sur le renseignement qui a été votée quelques heures après justement
ces révélations.
Elle a été votée, il ne manque plus que le Conseil constitutionnel pour définitivement la valider.
Exactement, puisque François Hollande avait dit qu'il appellerait devant un petit peu le scandale qu'il y a eu autour de cette loi, qu'il en appellerait au Conseil constitutionnel. On verra bien ce qui va se passer avec cette loi. Toujours est-il que on entre maintenant dans une nouvelle ère pour les nouvelles technologies en France. Il existe maintenant des moyens légaux pour l'État de surveiller de façon plus ou moins massive les entreprises et les particuliers. Alors c'est vrai que ça va donner justement aux services de renseignement davantage de pouvoir. Ça pourrait éventuellement, et encore on n'en est pas sûr, permettre de lutter un petit peu mieux contre le terrorisme, contre des gens qui auraient des dérives, etc.
Il y aura une espèce de boîte noire qui analyseront en fait des mots-clés qui pourraient être échangés en fait, et ces mots-clés pourraient alerter en fait un logiciel après pourrait écouter ces personnes-là.
Exactement,
en fait.
C'est en gros.
C'est-à-dire qu'on sera pas tous écoutés.
Sera pas tous écoutés, mais nos métadonnées pourraient éventuellement être récupérées, en fait, analysées dans le cadre d'enquêtes qui ne seraient pas en fait commanditées par la justice. Donc c'est vrai que ça laisse la porte ouverte à quelque chose qui peut être un petit peu inquiétant. On verra bien comment ça va être implémenté au final, mais c'est vrai que le fait de dire on va mettre des boîtes noires, des ordinateurs qui vont vous surveiller en masse chez tous les opérateurs, tous les fournisseurs d'outils de communication, c'est une nouvelle ère. On s'achemine vers cette nouvelle ère et on verra bien si le Conseil constitutionnel mettra son holà ou non.
Ouais, en gros, il n'y a pas que François Hollande qui écoutait, nous aussi bientôt. On va maintenant enchaîner sur Apple Music et Google Music, puisque c'est aussi les grosses annonces un petit peu plus sympathiques de cette semaine et surtout des jours qui viennent, puisque on le rappelle, le service de streaming de par abonnement d'Apple est lancé le 30 juin prochain, dans quelques jours, Eric.
Apple va lancer son service de streaming dans quelques jours avec une mise à jour de son système d'exploitation iOS. Donc il faudra mettre à jour son téléphone ou sa tablette pour bénéficier éventuellement d'Apple Music. Et c'est vrai que ça va être un peu la grosse nouveauté d'Apple de cette année. Mais Apple s'est fait un petit peu couper l'herbe sous le pied là par Google, qui a lancé, alors pour l'instant qu'aux États-Unis, mais on sait que Google va étendre ce service-là assez vite, qui a lancé une offre gratuite de son Google Play Music aux États-Unis. Alors Google Play Music, c'est pas un grand succès. On peut pas dire que ils aient réussi à rattraper Spotify ou Deezer sur ce créneau.
Mais ils se sont jamais véritablement investis, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'ils ont lancé ça pour dire on occupe le terrain, mais il y a jamais eu énormément de promotion.
C'est vrai.
C'est pas un service qui est super mis en avant par Google.
C'est vrai. Mais bon, là ils mettent en avant un service gratuit. Donc il sera.
Alors qui n'est pas équivalent quand même, malgré tout. C'est plus une radio, visiblement.
Oui, c'est plus une radio qu'effectivement ce que sera une version payante d'Apple Music. Mais quand même, c'est un petit tacle à Apple qui, lui, évidemment, avec Apple Music, ne permet permettra pas d'avoir une offre gratuite. On n'aura qu'une offre très très limitée en gratuit et pas de streaming à la demande.
Voilà, bon, tout ça à suivre, bien sûr. Ouais. Apple qui aussi a failli ne pas avoir Taylor Swift. Alors, on était très très tristes tous les deux, parce que vous savez, Taylor Swift, qui est l'une des stars du moment, a eu des relations un peu houleuses, un peu, on va dire, compliqué avec Apple ces derniers temps.
Exactement.
Elle refusait jusqu'à encore quelques jours de mettre à disposition sur le service d'Apple son dernier album 1989.
Exactement, parce que Apple, bon, a été un petit peu radin malgré tout l'argent qu'a Apple. Apple refusait durant cette période de gratuité, donc qui est quand même de 3 mois,
qui est une première,
de payer les artistes sur cette période-là. Donc en gros, c'était ouais. gratuit pour le public, mais aussi gratuit pour les artistes. Donc tout le monde n'était pas forcément content, et Taylor Swift de sa puissance de feu a tapé du poing sur la table et a demandé à Apple, a dit à Apple, moi je ne participe pas à ce truc si je ne suis pas rémunéré durant cette période de gratuité. Apple finalement a changé de
fusil d'épaule.
Ils ont très vite réagi et donc finalement a décidé de payer, de rémunérer les artistes pendant cette période-là. Donc non seulement Taylor Swift du coup maintenant sera rémunéré de ses écoutes durant cette période, mais ça a permis aussi à d'autres artistes, des labels indépendants, qui ont choisi du coup de rejoindre la plateforme, puisqu'ils se sont dit si Apple nous paye durant cette période de gratuité, on est prêt à suivre Apple et donc à venir sur le service Apple Music.
D'accord.
Et voilà. Donc c'est plutôt un bon plan finalement pour Apple Music, qui aura plus de choix pour les utilisateurs.
Donc les indépendants et Taylor Swift, on est sauvés.
Exactement.
Bon, parfait. Merci beaucoup Eric Le Bourlou. Eric Le Bourlou, rédacteur en chef du pôle actu donc du site zeronet.com, premier site d'actualité high-tech en France. Vous restez là. On va terminer cet atelier numérique avec le crash test d'Antoine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, le crash test dans une minute. Mais auparavant, c'est notre Silicon Zango avec Renaud-Edouard Barrault depuis l'Asie. Et Renaud, c'est votre dernier Silicon Zango.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices de l'atelier numérique sur BFM Business. Et bienvenue dans le Silicon Zango, pastille sonore en voie d'extinction et inversement sur le digital en Chine. Cette semaine, je vais vous parler de maladie. Alors non pas la maladie d'amour, celle qui court, mais celle qui vous mène dans une Yaofang. Alors non, pas d'inquiétude, tout va bien pour moi. C'est juste que la pharmacie, elle change beaucoup en Chine. Et moi, les choses qui changent beaucoup en Chine, forcément, ça m'intéresse. Pour cela que cela intéresse aussi, et je m'excuse d'avance auprès de ceux et celles pour qui ce n'est pas vraiment le cas, ma première expérience en terre chinoise concernait l'achat d'un liquide que j'espérais anti-poux. Nous sommes donc rentrés dans la boutique signalée, comme de bien entendu, par une croix verte, mais qui semblait avoir été stoppée dans son développement dans les années 1970. Et nous avons montré la traduction de Pou, Shiz, pour ceux qui, comme nous, n'auraient pas pensé à importer du produit idoine. Ce, à une dame assez revêche, Yin Shen De, pour ceux qui aimeraient décrire en chinois leur expérience avec la dame. Qui nous a donc donné un produit inefficace après avoir vérifié le tampon, Can, pour ceux qui veulent savoir comment se prononcent les trucs qui permettent d'imprimer des cercles avec des caractères à l'intérieur, le tout en rouge, donc le tampon sur la facture. Vu le résultat sur les cheveux de nos enfants, on aurait dû acheter les racines de ginseng, qui gisaient immobiles en vitrine dans leur liquide de conservation. L'effet aurait été finalement tout aussi nul, mais esthétiquement, ça l'aurait plus fait, je crois. Donc, depuis les débuts de l'année, les pharmacies qui vendaient autant de produits qu'un magasin d'État de l'ère Mao se sont remplies de biens divers, au point qu'on dirait presque maintenant que ce sont des pharmacies modernes. Il y a certes toujours quelques dames revêches, mais la plupart du temps, c'est sûrement par peur de l'incompréhension Est-Ouest. Alors, il y a aussi des jolis étalages. La logique chinoise fait que, par exemple, les tests de grossesse sont au-dessus des préservatifs et des lubrifiants. Vous voyez, c'est bien une forme de logique. Ne pensez pas que la modernité s'arrête à deux brosses à dents avec des souris dessus. Non, il y a même des articles pour quantifier soi-même sa santé personnelle. Si, de quoi prendre sa tension, de quoi se peser, du quantified self, quoi. Et puis, en France, si l'on s'écharpe pour savoir si, oui ou non, un pharmacien peut vendre du paracétamol en ligne ou non, ici, cela bouge et vite, comme de bien entendu. C'est ainsi que j'ai trouvé ma pharmacie fétiche, prénommée Jojo. J'ai une théorie sur ce nom. L'entreprise en version chinoise s'appelle Hangzhou Jiujiu Da Yaofang Liansuo Yuxiang Gongsi. Mais elle est sise à Hangzhou, évidemment. Hangzhou Jiujiu. Jiujiu. Ah, elle est pas mal, cette théorie, hein. Vous allez me dire que ce n'est pas une théorie, que c'était juste évident. Oui, c'est vrai. Bref, cela fait longtemps que Jojo se la raconte en matière de web. Et que je lance la vente en ligne sur mon site propre et que je lance mon site sur Tmall. Et ne dites pas que je suis un privilégié parce qu'Alibaba, proprio de Tmall, est aussi de Hangzhou. Hein, cela n'a rien à voir. Et que je fais plein d'argent en ligne durant les soldes chinoises du 11 novembre, vous savez, le 1-1-1-1. Et évidemment, cela ne pouvait pas en rester là. Jojo est maintenant la première pharmacie de Hangzhou à se lancer à l'intérieur de la première messagerie instantanée de Chine. Oui, Jojo a choisi la boutique intégrée WMS, soit WeChat Merchant Store, avec son système de paiement intégré WeChat Payment, concurrent de Tmall et de son paiement intégré Alipay. Et oui, WeChat de Tencent, vous savez, Tencent Kongu, Ocean Gongse. Mais j'en parlerai plus tard de celui-là quand j'arriverai à le prononcer correctement. Donc à la semaine prochaine, ou pas. Ou pas.
Merci Renaud, et place maintenant notre crash test pour terminer cet atelier numérique sur BFM Business. Crash test avec comme mot point de départ, j'allais dire, matutinal, Antoine.
Voilà, alors au départ, c'est pas exactement parti de matutinal, c'est parti des aventures que nos braves lycéens ont connues ces dernières semaines. Alors vous savez que l'année dernière, ils avaient fait une pétition qui avait eu un certain succès, parce qu'ils considéraient l'épreuve de mathématiques comme très difficile. Le problème, c'est que la réussite de cette pétition l'année dernière a donné des idées cette année à leurs petits camarades des disciplines littéraires, et là, on est arrivé à des situations quand même assez incroyable, puisque d'abord en littérature, en français, donc les lycéens ont été confrontés à Gustave Flaubert, donc se sont plaints, ce qui leur a valu sur la toile pas mal de sarcasmes aussi, et notamment de gens qui ont dit bah écoutez les gars, si en classe littéraire vous voulez pas étudier Flaubert, prenez donc une filière techno.
Voilà, mais, c'est ça.
Étudiez David Guetta en techno. Non, mais Flaubert, ça va pas le faire.
Non,
voilà. Bon, donc voilà pour Flaubert. Et puis alors, en anglais, à la surprise quand même assez forte de tous les gens habitués à lire ne serait-ce qu'une fois par mois un journal anglais, ils ont été surpris par l'usage de la locution to cope with, qui veut dire se débrouiller avec, faire avec, surmonter. En fait, l'idée de to cope, c'est l'idée d'arriver à surmonter, de faire avec et de se débrouiller. La difficulté qui a été exprimée par certains lycéens, parce que je pense qu'il y en a certains qui se sont très bien débrouillés avec cette expression, mais la difficulté qui a été soulignée par certains lycéens a fait évidemment rire pas mal nos amis anglais. Il y a eu une dépêche spéciale de la BBC là-dessus, sur le fait qu'il y avait une pétition de 12 000 étudiants contre le mot to cope with, qui fait évidemment partie du langage anglais le plus courant. Mm-hmm. Les Anglais se sont amusés de la naissance d'un hashtag sur le sujet. Hein. Enfin bon, voilà. Alors évidemment, pour eux, ça leur a semblé un petit peu étrange. Mais du coup, on pourrait se demander ce qui se passerait si on posait une question, peut-être aux Anglais ou aux Français, comportant un mot vraiment difficile ou vraiment peu usité. Et donc j'ai pensé au mot matutinal.
Oui, c'est vrai qu'on l'utilise pas au quotidien.
Vraiment, le mot matutinal, on ne l'utilise pas au quotidien. Donc, que se passerait-il si, par exemple, les étudiants anglais avaient à faire une épreuve dans laquelle il y aurait le mot matutinal? Eh bien, ce serait pas facile, parce que même en emmenant des antisèches numériques avec eux dans la salle d'examen, ils auraient quand même du mal, par exemple, à trouver une citation, hein, puisque il y a par exemple un site qui s'appelle Dico Citation, sur lequel, quand on cherche une citation avec matutinal, eh bien, il y a zéro citation.
Donc, incroyable.
À croire que ce mot n'existe pas. Alors, je vais y revenir tout à l'heure.
Là,
alors,
le suspense est à son paroxysme.
Voilà.
Antoine.
Alors, dans le Wiktionnaire, quand même, il y a la définition du mot matutinal. Et figurez-vous que matutinal, dont l'étymologie est empruntée au bas latin matutinalis, qui est dérivé de matutinum, qui veut dire, je vous le donne en mille, matin en latin. Donc, ce mot matutinal veut dire tout simplement matinal. Et puis, il y a chez les Romains une déesse de l'aube qui s'appelle Mater Matuta. C'est quand même très joli.
Mater Matuta.
Mater Matuta, c'est quand même très joli.
Oui, c'est très
voilà.
Bon.
Et alors, je vous disais qu'il n'y avait pas de citation dans Dico-citation. Par contre, j'ai trouvé une autre source sur Internet qui est l'Encyclopédie universelle, qui alors là, elle est pleine de citations qui est pleine de citations sur Matutinal. Et alors, figurez-vous que on retrouve une citation de Flaubert dont on parlait tout à l'heure, qui a utilisé. Donc, c'est vraiment une conspiration.
Oui, voilà, c'est ça.
Puisque Flaubert a utilisé Matutinal, il dit à un moment dans sa correspondance « Je vais ce soir à la répétition de la fameuse pièce. Demain à midi, je me dirigerai vers la bibliothèque. Si vous n'avez rien de mieux à faire, visitez-moi matutinalement. »
Matutinalement.
Alors, pourquoi utiliser matutinal, puisque matinal
marche aussi bien.
Existe.
Et en plus, c'est plus facile à prononcer.
Eh bien, apparemment, ce serait une manière de présenter les choses un petit peu différemment. Ça donne une tonalité un petit peu plus distinguée. Ça donnerait aussi quelque chose d'un peu plus joyeux, d'un peu plus guilleret. Ce serait employé par plaisanterie pour produire un effet d'archaïsme, mais qui donnerait aussi une forme de dynamisme. C'est-à-dire être matutinal serait être plus enthousiaste, avoir plus d'entrain qu'être matinal. Voilà.
D'accord.
Alors, donc, imaginez que les Anglais, qui ne passent pas leur bac, mais enfin qui ont quand même des examens comparables,
bien sûr,
et équivalents, même si tout ne se joue pas sur cet examen final que le monde entier nous envie, eh bien, que se passerait-il si les Anglais rencontraient dans un texte français le mot matutinal ?
Ouh là là !
Eh bien, figurez-vous, le Wiktionnaire nous dit dans sa version française, que le mot matutinal, j'imagine matutinal, existe en anglais.
Non.
Si.
Le mot matutinal existe en anglais ?
Oui, c'est un mot anglais.
Alors que matinal n'existe pas.
Non, je crois pas. Je sais pas.
Matinal.
Non, matinal. Mais matutinal, oui.
Tiens.
Voilà. Et alors, figurez-vous que sur un site de dictionnaire qui s'appelle Merriam-Webster.com, il y a bien l'explication de matutinal et il y a effectivement on nous dit que ça vient du latin tardif, late Latin, matutinalis, from Latin matutinus, more at matinée. Donc voilà. Donc le mot, ça veut dire la même chose qu'en français.
C'est pas
pour
vrai.
Le coup. Et
ah
si.
Oui, d'accord. Donc matutinal veut dire matinal en anglais.
Eh oui.
Incroyable.
Mais il n'est pas très utile. Il est rare quand même.
Voilà. Hein. On le dit pas tous les jours, hein.
Non.
Bah voilà. Écoutez, formidable. Voilà pour ce crash test avec comme point de départ matutinal. Vous avez quelque chose à raconter demain pour votre déjeuner dominical, hein, les amis. On revient la semaine prochaine.
Antoine, absolument, on va essayer,
là,
oui.
Bien sûr, oui. Pour un autre crash test. Bien évidemment, d'ici là, bon week-end à vous toutes et à vous tous. On sera là samedi, 16h-18h sur BFM Business pour l'atelier.